Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être à l'écoute de CFM Radio. Vous êtes dans le Bac du Tarn et nous sommes ensemble jusqu'à la demi. Et aujourd'hui, nous continuons à nous intéresser au Festival Musique sur Ciel qui en est à sa 45e édition tout de même. C'est organisé depuis le temps par l'Association culturelle des Amis de l'Orgue de Cordes, la CADOC, et sa présidente est avec nous aujourd'hui dans le MAG. Sylvie Gérin, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Bien.
Le festival a bien démarré.
Bah oui, on est.
Il y a du monde.
Il y a du monde. À 2 jours et demi du festival, on est déjà à près de 800 spectateurs. Donc, voilà.
Très bien. Super. Ah, depuis lundi, le festival dédié aux musiques de chambre a donc démarré et il se poursuit jusque dimanche. Avant d'aller plus loin et de présenter les deux autres illustres invités de ce magazine, un coup d'œil et d'oreille aussi au programme du jour. Pendant que l'on parle, il y a le concert impromptu à la chapelle Saint-Crucifix de Cordes sur Ciel, de Bach en cavale. Bach en cavale qui est joué par Éric Maria Couturier, qui a le don d'ubiquité aujourd'hui. Et puis à 20h30 à l'église Saint-Michel, le grand concert. Piano à quatre mains avec deux grandes pianistes françaises, Marie Vermelin et Vanessa Wagner. C'est bien ça le programme du jour, Sylvie.
C'est ça, et il ne faut pas oublier le petit conservatoire à 17h30 à Maison Gaugiran pour les enfants de 7 à 10 ans.
Tu nous rappelles ce que c'est exactement le petit conservatoire?
Eh bien, c'est animé par deux femmes absolument extraordinaires, cordaises, qui s'appellent Nina et Christine, qui sont toutes les deux musiciennes, oui. Musicologues, musicothérapeutes, voilà. Et elles font un travail formidable avec les enfants. Hier, ils étaient une dizaine, et ils reviennent tous les jours, c'est que...
Voilà. Ils aiment ça. Le petit conservatoire, ça fait pas mal d'années que vous avez mis ces ateliers en place et
ça
marche très bien. Voilà,
oui.
Pour l'éveil musical des enfants et aussi pour déjà les inciter à écouter de la musique classique. Ce sera un peu le sujet de notre magazine aujourd'hui avec des noms que l'on a déjà forcément entendus si on laisse traîner ses oreilles de temps en temps sur Radio Classique, soit parce qu'on est tombé dessus par hasard ou parce qu'on aime la musique classique. Éric Maria Couturier est avec nous dans le MAG aujourd'hui. Bonjour Éric. Et puis, attends, j'ai pas ouvert ton micro, pardon. Bonjour Éric.
Bonjour.
Voilà, on entend bien ta voix. Et puis, monsieur Christian Urbita, bonjour.
Bonjour.
Alors, Éric Maria Couturier, violoncelliste.
Oui.
Très bien, merci. Christian Urbita, luthier, à Cordes sur Ciel, grand luthier. Oui. Voilà. On parlera de la lutherie parce que demain, il y a une très belle rencontre qui est organisée par le Festival Musique sur Ciel. C'est une rencontre entre les fabricants d'instruments, je ne sais plus comment vous l'avez dit, les facteurs d'instruments. Voilà, j'aime bien ce terme-là, les facteurs d'instruments, les musiciens et puis les compositeurs. Voilà pour le programme de ce magazine. Alors, messieurs, nous allons parler de musique de chambre, de la musique classique. Alors, ne partez pas en courant, parce que, et c'est ma première question, hein, ça va porter sur ça. Si les visages et les influences des musiciens classiciens sont loin des stéréotypes peut-être que l'on en a, il y a qu'à voir Éric Maria Couturier, on a l'impression qu'il va à un concert de punk là. Il reste quand même difficile d'intéresser les gens à la musique classique. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je vais commencer par Sylvie Gérin.
C'est une question difficile.
Bon courage.
bon courage. Ou sinon, je vais la reformuler différemment. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous réfléchissez à la programmation, à l'organisation d'un festival comme celui-là, à quoi vous pensez pour permettre au maximum de gens, aux curieux, aux amateurs, aux initiés, de venir?
Ben, on vient déjà sur CFM.
Ça, c'est bien.
Voilà.
Ça, c'est bien.
On essaye d'avoir des propositions multiples, comme les concerts découvertes, qui ont un format d'une heure avec un tarif, à 10 euros pour unique. Mm-hmm. On propose des impromptus à midi gratuits dans la cité, où là, c'est des gens de passage qui s'assiedent. Je voyais hier, il y avait 180 personnes. Ils avaient l'air tout à fait heureux d'entendre Olivier Patay, Dite Tilanus, enfin bon voilà, donc on essaye de multiplier les propositions, on va à la rencontre du public, on va aller chercher, voilà, on part en cavale aussi, on va au musée du Keila, voilà, c'est dans la multiplication et dans la diversité de la proposition qu'on essaye de diversifier notre public. Les moins de 12 ans, c'est gratuit. Hier, il y avait beaucoup d'enfants au concert. Un concert de mélodie française qui n'est pas très souvent donné et qui est un peu boudé par le public en France. Et l'église était quasiment pleine et il y avait beaucoup d'enfants. Donc, voilà.
Il y avait des jeunes, quand je dis jeunes, c'est de 18 à 40 ans, 35
plutôt. Il y en avait, et je trouve que depuis 2 ans au festival, l'année dernière entre autres, cette année j'espère aussi qu'on va les voir arriver, mais il y avait des étudiants du Conservatoire de Toulouse mm-hmm. qui sont revenus tous les soirs. Voilà, donc oui...
Donc eux ils sont déjà un peu habitués. Là je vais me tourner maintenant vers le musicien qui est avec nous, Éric Maria Couturier, violoncelliste de votre état. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir défendre l'ouverture et la richesse de la musique classique dans un bistrot par exemple?
Défendre, non, pas ce point finalement. Disons que la musique classique, en fait, c'était un peu la chanson française de l'époque. Ça date d'il y a 300 ans, 200 ans. Mm-hmm. C'est vraiment récent et c'est ce qu'il y avait de plus moderne à l'époque. Alors maintenant, il y a des choses encore plus divertissantes. Mm-hmm. Et c'est vrai que la musique classique, elle n'est pas forcément divertissante par rapport à ce qu'on écoute maintenant. Mais je crois que les gens ont vraiment besoin de se plonger aussi dans le silence, dans l'écoute. Quand on va au musée, on n'est pas obligé d'écouter d'autres musiques dans la tête, on regarde. Mm-hmm. On a juste besoin d'utiliser le sens de la vue, les sensations. Pareil pour la musique classique, on écoute ça simplement à titre d'information ou de façon complètement passionnée, ou carrément on part en transe quand on écoute une cantate de Bach. Il y a des choses sublimes, hyper rythmées, hyper complexes, très riches. Harmoniquement, c'est complètement fou des fois. Ça rejoint des opéras rock en quelque part plus complexes, hein, quand on s'y penche bien.
Mmh. Je ne sais pas si ce n'est qu'une impression vue d'ici, du vieux continent, mais dans d'autres pays, d'autres continents se sont beaucoup ouverts à la musique classique tout récemment. Je pense notamment à l'Asie. Et je parle de l'Asie parce que je sais que vous y allez très souvent. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe là-bas? Est-ce que aussi là-bas, c'est un peu une musique qui est réservée à une certaine élite? Quand je dis réservée, je pèse mes mots. Mais est-ce que là-bas, on joue de la musique classique dans la rue? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple?
Oui, il y a énormément de sollicitations d'étudiants et de professeurs des conservatoires de Pékin ou au Japon ou à Taïwan ou même en Corée. Ce sont des très grandes écoles qui sont liées aux autres grandes écoles, à New York ou à Paris. Et je dirais, malheureusement, ça devient élitiste juste parce qu'il n'y a aucune une action culturelle pour aider les salles de concert et les orchestres. Tout est un sponsor privé, ce qui fait que pour rentabiliser une location de salle, les tickets sont très chers.
Mm-hmm.
Si on veut aller voir un opéra à Tokyo, je sais pas, c'est exorbitant.
Oui.
Et ça, c'est parce qu'il n'y a aucune aide du gouvernement derrière, et quelque part c'est vraiment une décision politique de rendre le truc élitiste. Alors que la musique en soi, elle demande rien. Les musiciens, ils font leur boulot, ils sont pas plus payés. Et les gens veulent écouter de la musique.
Il y a
vraiment un besoin.
Mm-hmm. Christian Urbita, luthier et globe-trotteur à certains moments de votre vie, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur ce sujet, au sujet de la médiation culturelle finalement, pour intéresser le maximum de gens à la musique classique?
Oui. Disons, nous, de festival, on propose des... Enfin, je dis « on » parce que j'ai été président, mais enfin, je ne le suis plus. Mais...
président d'honneur, maintenant.
Et oui, voilà. Oui, c'est...
Quand même.
Là, c'est que du bonheur, président d'honneur. C'est avec une très bonne présidente. Nous, on propose des œuvres aux gens, disons, qui sont déjà attirés par la musique classique. Mais je pense que ça devrait être à l'éducation, qu'on fasse un peu plus de découvertes de musique. En Angleterre ou en Allemagne, il y a une vraie culture musicale. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'amateurs de très haut niveau, tout ça. En France, c'est un peu, ouais, c'est resté élitiste, c'est...
Malgré tous les grands compositeurs français qu'il y a eu, en Allemagne, ils en ont aussi eu certains, très
ouais,
élus, mais
vrai,
on a du
mais
mal.
Hein, ouais. Si dans les supermarchés, il y avait des œuvres classiques, les gens diraient, ah, mais c'est beau, c'est joli, on se détend, tout ça. Souvent, dans les supermarchés, il y a de la mauvaise musique, parce qu'il n'y a pas que la musique classique, hein, il y a du jazz qui est bien, il y a de la variété qui est bien. Mais souvent, enfin, actuellement, on entend beaucoup de mauvaise musique, et ça, c'est dommage.
Bon, il y a de la musique classique dans les ascenseurs, quand même.
Ouais, c'est spécifique, ça. Et je voudrais dire une parenthèse par rapport au Japon. L'année dernière, Augustin Dumay était là, donc, et il est chef d'orchestre à Ozawa, au Japon. Et il m'expliquait qu'en fait, c'est un empereur du Japon qui a, alors ça c'était pas très, très bien, mais interdit la, la musique traditionnelle du Japon, parce qu'il y avait des castes, enfin tu sais plus que moi sans doute, et qui a imposé la, notre culture, la musique occidentale. Donc c'est pour ça qu'ils sont très friands de, d'artistes français, enfin européens. Et beaucoup de musiciens vont au Japon pour jouer un concert. Donc c'est quand même une volonté politique, entre guillemets, d'éducation et tout ça, quoi. Nous on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens, quoi.
Je vous prends tous au mot et je vous propose d'écouter un extrait de ma mère Loi. Je ne sais pas comment on prononce ma mère Loyer ou ma mère Loi de Ravel.
Ma mère Loi, oui.
De Ravel, interprété au piano par Marie Vermelin et Vanessa Wagner, qui joueront toutes les deux tout à l'heure, c'est à 20h30, à l'église Saint-Michel de Corte-sur-Ciel.
CFM, le mag. Le mag.
Sur Radio Classique. Merci de nous écouter sur le 94.7. Ah non, je rigole, c'est CFM. C'est la suite du mag, c'est du piano à quatre mains. C'était Ma mère Loi de Ravel, interprétée ici par Marie Vermelin et Vanessa Wagner, qui joueront toutes les deux à Corde-sur-Ciel à l'église Saint-Michel dans le cadre de la 45e édition du Festival Musique sur Ciel. Et comme vous venez de l'écouter, Ravel, il n'a pas composé que le Boléro. Alors nous sommes en compagnie de Sylvie Gérin, présidente de la CADOC, l'association organisatrice de ce festival. Christian Urbita, luthier et président d'honneur du Festival Musique sur Ciel, ainsi qu'Éric Maria Couturier, immense et excellentissime, que dis-je, violoncelliste français. Après avoir parlé de la médiation culturelle en première partie, intéressons-nous maintenant à un cas concret dans lequel vous intervenez, Éric Maria Couturier. C'est l'ensemble intercontemporain. Est-ce qu'on peut en parler un petit moment, parce que ça a été créé il y a quoi, 40 ans, par quelqu'un que vous estimez beaucoup, c'est Pierre Boulez.
Pierre Boulez, oui. Qui nous a quitté l'année dernière, et l'ensemble a été créé l'année dernière, j'arrive vraiment pas à le dire. Il faut dire l'an passé,
ouais.
Il y a trois années. L'ensemble intercontemporain, créé en 1976, vocation le plus de musique nouvelle, des jeunes compositeurs, des compositeurs vivants, hyper vivants, suractifs, ou... Le classique pour nous, c'est dans notre jargon, c'est du classique, la musique du XXe siècle.
Ok.
C'est-à-dire Ravel, Debussy, le premier Schoenberg, l'autre Schoenberg, et puis Webern, Berg, et puis Stockhausen, Ligeti, Berlioz, Xenakis.
Vous jouez quand même des œuvres de compositeurs vivants ?
Oui, exactement. J'ai la chance d'avoir pu insérer deux compositeurs japonais lors des deux concerts Bach en cavale. Alors, j'ai dans ma malle une partition de Aki Ito, une jeune compositrice vivant à Paris, et puis Dai Fujikura de Londres.
Oui, parce que là, je mets le doigt sur quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on regarde souvent les programmes des festivals de musique classique, c'est souvent des compositeurs morts. On dirait que ça ne s'écrit plus, alors que je sais que notamment dans le cadre du Festival Musique sur Ciel, il y a des œuvres qui sont d'ailleurs souvent composées uniquement pour cordes, ou composées et jouées pour la première fois à cordes, mais on a l'impression que voilà, qu'il n'y a que les morts qui faisaient des belles choses. Christian ?
Les luthiers, c'est pareil.
Ouais.
Il faut être mort.
Il faut être mort.
Bon, je vais attendre un peu.
En dehors du public d'amateurs déjà sensibles à cette musique, est-ce qu'il y a un discours ou un dialogue que vous instaurez? Quand je parle, je me dis que c'est idiot, parce que si je veux vous faire aimer le rock, je veux vous en faire écouter, quoi, voilà. Mais on a l'impression que la musique classique, il faut toujours la conceptualiser, expliquer, trouver les moyens. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un ou qu'est-ce que vous lui faites écouter quand vous voulez l'intéresser à la musique classique? Et là, je vais vous demander à tour de rôle de répondre. On va commencer par Sylvie Girin. Voilà, vous rencontrez quelqu'un.
Je préfère qu'on commence par Eric Maria.
Ouais, Eric. Vas-y, Eric.
Je crois que la musique en général a besoin d'un support. Les souliers, par exemple.
Ouais, par exemple.
Il faut toujours un contexte. Mm-hmm. Donc, ça peut être exactement des paroles. Ça peut être dans la musique biblique, il faut que ça soit une illustration musicale de l'ascension vers le Golgoth ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Ça peut être un opéra, ça peut être, et maintenant ça peut illustrer un dessin animé, ça peut illustrer de la musique de film. Mm-hmm. Ça peut illustrer des chansons folkloriques, populaires ou tristes. Je crois que l'intérêt de la musique d'abord c'est d'accompagner vraiment une voix ou un contexte ou des images, et ensuite la musique pure peut ensuite se greffer et avoir complètement son sens, comme les suites de Bach, par exemple, où on réfléchit pas. Mmh. Voilà. Je crois que c'est, il y a deux choses.
Les émotions et après le contexte dans lequel on l'écoute aussi, peut-être.
Et puis, tout simplement, elle se suffit à elle-même parce que elle est belle. Mmh. Ou elle est trash. Ça dépend. Voilà. Ça dépend du style. Il y a des gens qui ont besoin de ça à un moment. Voilà, on se sert dans tout ce qu'on a. Maintenant, on peut tout avoir avec Internet. Donc ça, c'est, on peut ça, aussi se cultiver. Oui. Excusez-moi du gros mot.
quel compositeur est le Bob Marley un peu de la musique classique? Quand je parle de Bob Marley, c'est voilà un compositeur qui fait un peu consensus comme ça, qui pour vous est celui qui pourrait plaire au maximum de gens.
Ah, c'est drôle parce qu'on vient d'écouter Ravel et quand même lui qui a trouvé des titres, Ma mère loi, là c'était une petite gamme pentatonique chinoise. Enfin, je trouve que c'est quand même il y a un avant un après quand même dans cette période.
Ouais.
Ouais, surtout au niveau de la musique française.
Christian Iobita, un artiste comme ça, un compositeur en classique qui...
Voilà. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Mozart. Mm-hmm. Mozart, c'est facile à écouter, c'est beau, c'est... Ça ennuie des fois les spécialistes parce qu'on connaît les œuvres par cœur. Mm-hmm. Mais ce que je voudrais dire, alors, par rapport aux compositeurs morts, ce sont quand même des grands créateurs qui ont apporté quelque chose. Et dès qu'on crée de la vraie création, entre guillemets, quelque part, on n'est pas reconnu parce qu'on choque.
Sur le moment, oui.
Bach gêné à son époque. Telemann était beaucoup plus connu. Bach, on disait, il est un peu plus compliqué. Mozart aussi, il y a trop de notes, c'est quoi cette musique? Parce que Beethoven, c'est les derniers quatuors, il disait c'est injouable, c'est inaudible, et si on continue, Bartok c'est pareil. Enfin, mm-hmm. Donc il y a toujours un décalage entre ces grands créateurs qui font évoluer la musique, et on ne peut pas dire que Mozart soit meilleur que Bach, ou ils ont amené leur... Parce qu'on pourrait dire après Bach, on a tout dit. Mm-hmm. Et puis Mozart est arrivé. Alors après Bach, Mozart, tout est fait, quoi. Et puis il y a eu Beethoven. Et ça continue jusqu'à maintenant. Un des derniers, c'est Bartok. Et après, bon, maintenant, après, c'est, et après le temps, on fait le tri, par contre. Il y a des compositeurs dont on n'en a plus parlé. Ça, c'est un peu mystérieux. Pourquoi il y a un compositeur qui
le temps ne fait pas toujours les bons tris, mais enfin...
Oui.
Bon.
Des fois,
mais en
ça,
tout cas, au festival, c'est un devoir d'accueillir en résidence un compositeur, mm-hmm. parce que la musique s'écrit toujours. Alors nous, on le met en contexte en invitant en résidence un compositeur qui va pouvoir rencontrer le public, peut-être parler ou pas de ses œuvres. Enfin,
oeuvres,
voilà,
oui.
c'est quand même une chance de pouvoir les rencontrer, pouvoir leur poser des questions. Les musiciens peuvent travailler avec lui, il y a des séances de travail qui sont prévues. Voilà, je sais que pour plusieurs musiciens, c'est précieux.
C'est précieux, ces moments-là. Et cette année, c'est François Meymoun qui est accueilli, qu'on aura le plaisir de rencontrer ici sur CFM. Avant de passer à la prochaine respiration musicale, je voulais demander à Eric Maria, quel est, selon vous, le compositeur le plus difficile à interpréter de tous ces compositeurs morts, là, tiens?
Il faut demander à quelqu'un d'autre.
Ah ouais? Ils sont tous faciles?
Ils sont tous difficiles, mais c'est quoi la difficulté? Est-ce que c'est la difficulté pour la difficulté ou c'est juste à l'écoute? Est-ce que c'est dur pour les gens? Est-ce que c'est dur pour nous? Mmh. C'est hyper relatif en fait. On peut vraiment pas.
Je parlais en tant que musicien pour vous personnellement, le compositeur le plus difficile à interpréter ou l'œuvre qui vous a demandé le plus de temps.
Mais au niveau technique.
Au niveau technique, oui, je parle. Oui.
Il a aucun problème au niveau technique.
Lui non. Lui il est fait tous. Je vous propose maintenant d'écouter le maître incontesté du contrepoint. Entendez par là la superposition organisée de lignes mélodiques distinctes, n'est-ce pas? Merci Wikipédia. Si j'ai bien compris, c'est proche du canon. Il s'agit de Bach dont on vient de parler à l'honneur cette année au Festival Musique sur Ciel. Et l'extrait pour violoncelle que l'on va écouter est interprété par Anner Bils.
CFM, le mag. Le mag.
Forcément entendu quelque part celle-là, cette mélodie, dans un film, dans une salle d'attente, on parlait des ascenseurs tout à l'heure aussi, ça peut arriver. C'était une mélodie composée par Johann Sebastian Bach, dont tu joueras d'autres extraits d'ailleurs, Éric Maria Couturier, oui. Le temps du festival, durant les cavales du festival à Andillac, au Château-Musée du Quai-là et au Théâtre du Colombier. C'est samedi à 11h et 17h30 respectivement. Et une grande première pour le festival Musique sur Ciel, il y aura la participation d'un danseur japonais, Hiro Aki Umeda. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de jouer comme ça pour des danseurs?
Plusieurs occasions avec des ballets, avec l'Opéra de Paris, okay. Avec les ballets Béjart, avec Richard Segal. Avec Hiro Aki, c'est vraiment la première fois et je pense que ça va être très 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 motivant, très intéressant, très pulsé.
Je pense que comme pour tout musicien, d'avoir quelqu'un qui danse quand on joue, c'est quand même mieux, non?
Oui.
Ça doit changer du public qui est complètement assis et où on est le seul acteur au final.
Je pense que l'interaction, elle génère une énergie qui est complètement différente de, justement, déjà de, nous on est assis, on a un pupitre, une partition. Là, c'est l'idée qu'il n'y a pas du tout de choses, comme des écrans, des murs, des, mm-hmm. voilà, juste on est dans le regard, dans les corps.
Et dans l'échange, oui.
Et dans l'échange,
oui. Ouais. En même temps, toi en particulier, tu aimes bien tenter des nouvelles choses, musique expérimentale, jouer avec un DJ, j'ai vu ça aussi, ou des musiques qui arrachent les cheveux des fois, ou pas forcément du jazz aussi. Je parlais du visage moins guindé des classiciens, je pense à Arnaud Tourette, que l'on a reçu ici hier, et ou de la touffe de Pierre Fouchneret. Terminons maintenant par un sujet, et non des moindres, c'est la lutherie, parce que demain, de 16h30 à 18h30, à la maison Font-Pérouse de Corte-sur-Ciel, une rencontre entre compositeurs, musiciens et les luthiers, les facteurs d'instruments, et Christian Urbita en est un. Vous êtes à l'origine de ces rencontres d'ailleurs, Christian. Je crois que ça fait pratiquement 20 ans maintenant, 19 ans.
Oui, à peu près.
Exactement,
oui.
Ouais. Racontez-nous un peu comment ça se passe, ces rencontres. Voilà, c'est tout à fait informel. Comment ça se passe?
Donc à l'origine, c'était, je revenais de mon tour d'Europe en Angleterre. J'avais travaillé dans des grands ateliers et j'avais envie de recréer à Corde cette atmosphère d'échange, de qu'on pouvait avoir dans ces ateliers. Donc j'ai invité tous mes amis d'Europe à venir passer une semaine pendant le festival à Corde. Ça, on l'a fait pendant une quinzaine d'années. Et puis, bon, au bout de 15 ans, ça fait beaucoup. Et puis, on n'avait plus la maison Gaugira, on n'avait plus la place pour le faire. Donc, on a décidé, à la demande de notre présidente, d'essayer de continuer ces rencontres. Et on disait, pourquoi pas provoquer donc une rencontre. Il y a un compositeur, il y a des musiciens, il y a des luthiers. Parce que on regrette un peu que Dutilleux, par exemple, qui est décédé, est venu. On a rien de lui sur le rapport qu'il a avec les instruments, par exemple. Courtag aussi, ce sont des grands, on pourrait dire des génies. Enfin, Courtag est encore vivant, mais il reste un peu chez lui. Il veut plus tellement partager. Et ça serait intéressant qu'il y ait quelque chose qui reste, quoi, de ces rencontres.
De ces rencontres-là.
Donc, on l'a un peu officialisé. Et donc, c'est ce qu'on va faire demain.
Demain,
par exemple, Courtag, il est étonnant parce que il y a très peu de notes, mais chaque note est importante. Il passe des heures à faire répéter les musiciens sur une note. Et je me souviens, à la fin d'un concert, il demandait un piano droit. Il y avait le Steinway, il y a un piano droit. Et en fait, à la fin, c'était qu'une note sur ce piano. Donc, ça aurait été intéressant de parler davantage avec lui de ce sujet. Donc, c'est pour ça qu'on veut développer un peu
ces rencontres-là.
Et c'est une chaîne sans instruments. Les musiciens ne pourraient pas jouer. Sans les compositeurs, il n'y aurait pas de musique. Donc, c'est très lié, quoi, les musiciens, luthier et compositeur.
Donc, favoriser ces plateformes où il y a non seulement un échange de savoir-faire, de savoir tout court, mais aussi de discuter. Sur toute cette chaîne dont tu viens de parler, comment se forme à la lutherie aujourd'hui?
Oui, très bonne question. Il y a une école de lutherie dans chaque pays d'Europe. Il y a un cursus de 3 à 4 ans. Et après, on sait le minimum au bout de 4 ans. Et après, on peut se former chez des maîtres luthiers.
Il faut des stages, des périodes d'apprentissage, des choses comme ça. Les qualités d'un bon luthier, tu dirais que c'est quoi? Tu peux te lâcher, hein.
Non, mais c'est intéressant, mais il faut que je réfléchisse parce qu'il y a beaucoup de. Il faut de la précision, il faut du ressenti, il faut faire des violons avec le cœur et pas avec le portefeuille. Parce que bon, il y a des instruments qui sont très chers actuellement, donc c'est. Il y a plusieurs facettes. Il y a le commerçant, le restaurateur et le créateur. Hein. Mais dans tous les métiers, il y a ça, en fait. Il y a des gens qui se servent de la musique, d'autres qui servent de la musique. Mais bon, pour faire un métier, mais tous les métiers, il faut beaucoup de qualité.
C'est sûr.
Si on ne savait pas à quel niveau on veut le faire et pourquoi on le fait.
J'espère bien qu'on en reparlera sur cette antenne parce que ça m'intéresse de creuser un peu plus. J'avais encore énormément de questions à vous poser, mais malheureusement le temps passe vite. Et pour terminer sur le partage de savoir-faire, ces rencontres autour de la lutherie, je rappelle que c'est demain à 16h30, c'est ouvert à tout le monde. C'est à la maison Font-Pérouse de Cordes-sur-Ciel, entendez par là. La mairie de Cordes-sur-Ciel, le festival Musique sur Ciel se poursuit donc jusque dimanche, avec encore pour le reste de la semaine de beaux et bons concerts de musique de chambre, de musique classique. Eric Maria Couturier, violoncelliste, que je vous invite à aller voir au Château Musée du Quai-la samedi à 11h et à 17h30 au Théâtre du Colombier. Il jouera des œuvres de Bach pour le danseur japonais Hiroaki Umeda et pour ceux qui seront également présents. Merci Eric Maria Couturier d'être venu dans les studios de CFM. On te souhaite un bon séjour à Cordes-sur-Ciel.
C'est gentil.
Christian Urbita, président d'honneur du festival, était aussi avec nous. Merci Christian. Je sais que tu es un homme très pressé, très occupé.
Merci.
Sylvie Gérin, la présidente de la CADOC, aussi était là. Bon festival, Sylvie.
Merci.
On se retrouve très bientôt. Le Mag du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. À demain, même heure, même fréquence. On va se quitter avec un titre d'un de nos invités d'aujourd'hui. C'est Eric Maria Couturier. C'est une sonate pour violoncelle de Zoltán Kodály.
CFM, le mag.